La sexploratrice.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel, Radio X.
Vous êtes de retour avec la sexploratrice Mel Trudel et Marc Lacasse.
En chaîne en audio.
En audio.
All right. Hey, on fait-tu le petit doigt comme à l'école secondaire?
Ça, c'est très drôle.
On l'a dit en même temps.
Max.
Oui.
On a avec nous une personne que j'adore.
Ah, je l'aime aussi.
Les auditeurs connaissent déjà. Hein? C'est une personne qu'on aime beaucoup ici, qui fait partie de ma famille même.
Oui.
Et oui, c'est la belle-mère de mon fils, la conjointe de mon ex, mais également intervenante, travailleuse sociale, en fait, enseignante de méditation et entrepreneur offrant des services aux particuliers et aux entreprises. On parle ce soir avec Cathy Savard.
Allô!
Salut, Kat!
Moi aussi, je vous aime!
Oh, c'est tellement cute!
On s'aime! Il y a plein d'amour dans ce show-là!
Oui!
Non, mais je trouve ça le fun parce que jusqu'ici, on a réussi à parler de plein de sujets, parfois plus personnels, parfois plus, ouverts, là, bon, qui touchaient finalement monsieur, madame, tout le monde, et des situations auxquelles toi, tu as fait face. Mais aujourd'hui, on va parler de l'impact et des enjeux liés à la santé mentale, mais l'impact que ça a sur nos proches. Puis ça tombe bien, puisque c'est la Semaine nationale de la santé mentale, hein, du 6 au 12 mai. On est en plein dedans. Donc, je trouvais que ça se portait bien. Là, pour...
Ça devrait être à tous les semaines, ça.
Vraiment?
Oh, oui.
Oh, oui, absolument.
On devrait faire attention à notre santé mentale à toutes les semaines. On n'a pas besoin d'une semaine, mais c'est le fun de mettre la lumière là-dessus au moins une fois par année.
Effectivement. Donc, on va parler avec toi, c'est ça, de l'impact chez les proches d'un enjeu de santé mentale, finalement, au niveau psychologique, au niveau financier, relationnel, tout, là, tu sais, parce qu'il y a un impact, là. Ça n'est pas minimisé. On a tendance à beaucoup parler de la personne qui le vit,
oui,
mais pas souvent des proches.
Ah, clairement. Puis, quand je réfléchissais, tu sais, au thème que je voulais aborder dans ma chronique, je me disais... Oh mon Dieu, tu sais, dernièrement, j'ai eu beaucoup de dossiers, justement, tu sais, famille, couple, conjoint, conjointe, de gens qui vivent un problème de santé mentale, autant dépression, anorexie.
Est-ce que tu en vois plus ces temps-ci? Parce qu'on a reçu Maude Galichand, qui est une célébrante, et elle nous a avoué hors d'onde qu'elle voyait de plus en plus de cas de gens en détresse, des suicides. Est-ce que tu en vois plus depuis une certaine période? Est-ce que tu as l'impression que les gens ne vont pas bien?
C'est sûr que c'est cyclique, hein. Souvent, il y a des périodes dans l'année, des saisons qui sont un petit peu plus difficiles. Tu sais, je te dirais que là, actuellement, printemps, normalement, c'est une saison qui, ben, moi, de mon côté, qui va bien. Quoique cette année, j'ai eu énormément de nouvelles demandes pour différentes raisons, mais normalement, c'est plus à l'automne qu'on voit vraiment un taux de suicide.
Corrélation avec la dépression saisonnière.
Oui, oui, beaucoup plus. Oui. Puis, dans le fond, les impacts de la santé mentale chez les proches, c'est vraiment énorme. Je trouvais ça important qu'on en parle parce que souvent, ces personnes-là, par exemple, si on parle d'un partenaire, un conjoint, conjointe qui vit avec quelqu'un qui a une dépression ou un trouble d'adaptation ou, par exemple, un trouble affectif bipolaire, bien souvent, le spotlight est mis sur la personne, tu sais, les symptômes, les enjeux au quotidien, au niveau du fonctionnement. Mais si on regarde, les impacts sont immenses, tu sais, au niveau des enfants, au niveau du conjoint. Tu sais, ça peut amener beaucoup d'instabilité aussi.
Oui.
Hein, la personne qui vit une problématique, par exemple, on va prendre l'exemple d'une personne en dépression. Bien, souvent, la personne ne peut pas occuper son emploi. Donc là, ça amène, c'est sûr, des enjeux au niveau financier. La personne, bien, n'a plus la même énergie. Souvent, va avoir, par exemple, plus de fatigue, une difficulté à se mobiliser.
Fait même à faire les tâches conventionnelles et habituelles.
Les tâches quotidiennes.
Oui, à la maison.
Va avoir de la difficulté à s'occuper des enfants. Va avoir de la difficulté, par exemple, à occuper son rôle de conjoint-conjointe, tu sais, fait qu'au niveau de la, au niveau relationnel, au niveau de la sexualité, au niveau, tu sais, fait qu'il y a des impacts vraiment à tous les niveaux, puis ça, c'est vraiment pas négligeable, puis souvent, ces proches-là, ben ils savent pas quoi faire, tu sais, ils essayent tant bien que mal d'aider la personne, mais c'est pas des intervenants, tu sais, c'est pas des professionnels. Donc là, c'est comme, c'est quoi la bonne approche, les bonnes interventions à privilégier.
Ça, c'est le genre de truc que toi t'aides, en fait, que tu...
Totalement, oui.
Okay.
Mais c'est complexe quand même. Hein? Oui. J'ai une théorie là-dessus, puis tu sauras me dire si elle est juste. J'ai l'impression que la folie ou une problématique psychologique devient contagieuse sur nos proches et dans l'entourage immédiat des gens qui nous entourent. La Maison Jean Lapointe, dans le domaine des dépendances, offre une thérapie à la famille, une thérapie aux codépendants. Est-ce que tu penses que ce serait nécessaire aussi pour les gens qui, par exemple, sont habités par la dépression, sont habités par un trouble psychologique, d'assurer un suivi chez les membres de la famille?
Hey, tellement. Ouais. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que oui, puis souvent, puis il existe des ressources, mais souvent les gens ne les connaissent pas. Les proches ne vont pas nécessairement vers ces ressources-là. Fait que c'est pour ça, moi, ce soir, tu sais, j'avais envie de briser un peu ce tabou-là, puis d'en parler, puis d'inviter les proches à ne pas hésiter à consulter parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu sais, que ça peut être comme contagieux parce que, tu sais, si on regarde une personne en dépression, ben si on regarde les principaux symptômes, ben tristesse, découragement, manque de motivation, manque d'intérêt, une fluctuation au niveau de l'humeur. Donc, tu sais, il y a plusieurs symptômes, donc ça peut amener, puis c'est pas la personne... et pas le fait pas de façon mal intentionnée, mais ça amène une espèce d'énergie négative, tu sais,
oui.
Avec des émotions qui sont plus comme de l'ordre de la tristesse, du découragement. Donc, c'est sûr que par la bande, ça amène...
Une pression énorme.
Oui,
ouais, et puis surtout si c'est un conjoint ou une conjointe, là, t'habites avec la personne, donc nécessairement, ça va t'affecter à un moment ou un autre.
Puis tu sais, à un certain moment, quand la personne, quand ça fait longtemps, mettons que ça traîne et tout ça... Maintenant, tu te dis, ouais, mais là, coudon, fais-tu exprès? Ou tu sais, tu viens qu'à devenir peut-être toi-même irritable, là, puis à bout?
Oui, ou j'imagine
que
c'est possible de ressentir de la culpabilité aussi.
Ben oui,
d'être impuissant
clairement.
Par rapport à
puis
ce
de
que...
pas trop savoir, tu sais, de se sentir mal, de demander, hey, pourrais-tu participer à telle tâche ou tu peux-tu? Mais puis c'est important, c'est ça, le proche doit demander de l'aide aussi parce qu'on a tendance à voir la personne touchée par la dépression, pas de problème, elle va consulter tout ça, mais le proche, n'hésitez pas, tu es là pour ça.
Ah oui, définitivement. Puis, tu sais, moi, ça m'arrive justement d'accompagner des proches. Puis, juste d'avoir un espace pour, dans le jargon, on appelle ça ventiler, tu sais, pour être capable de nommer aussi. Tu sais, souvent, là, ces personnes-là vont nommer dans un espace sécuritaire, confidentiel, des choses qu'ils n'ont jamais osé nommer. Tu sais, l'espèce de sentiment d'impuissance, puis. Parfois, ils vivent la colère, ils vivent toutes sortes d'émotions qu'ils n'osent pas nommer, qu'ils n'osent pas exprimer. Et parce que le conjoint ou la conjointe est dans un état de détresse. Donc là, le partenaire garde vraiment tout à l'intérieur de lui ou d'elle.
Il ne veut pas rajouter
ben
dans
non.
la cour de l'autre.
Fait que là, le risque aussi d'épuisement ou de développer un trouble d'adaptation ou... un épisode de dépression. Moi, j'en ai vu, là, les deux.
Aïe, aïe, aïe.
Un épuisement, un en... Je
ça
vous
s'enchaîne.
Le dis, là.
Un
moi,
avait
j'en
alimenté
vu.
L'autre.
Ah, oui, deux, les aïe, deux conjoints.
Ajoute des enfants là-dedans.
En arrêt de travail pour, je sais ça, là, il y en a un qui a commencé par vivre un épuisement, puis après ça, l'autre a suivi pas longtemps après.
Mais c'est quoi la solution? Est-ce que c'est de venir s'asseoir avec toi pour tenter de comprendre et de disséquer le problème, puis après ça, ben prendre action? Ou parfois... Comme disait Jean Robitaille, qui, bon, je vais reprendre l'exemple de la Maison Jean Lapointe, là, qui est la personne en charge du programme des codépendants. Lui, il avait dit une phrase un jour que j'ai entendue qui a tellement résonné en dedans de moi. Il a dit « Parfois, c'est peut-être juste mieux de se détacher avec amour d'une personne qui va pas bien. » C'est hard d'entendre,
ouais,
c'est dur, mais
vraiment, parce
parfois...
que c'est le moment où la personne a le plus besoin de
exact.
Se sentir...
Alors, au travers de tout ça, comment on fait pour se retrouver?
Hey, j'adore là, ce que tu dis parce que il y a toute la culpabilité aussi que le proche peut... En fait, le proche devient un proche aidant.
Carrément.
C'est qu'on aide une personne pour un enjeu de santé physique ou un enjeu de santé mentale ou toute autre problématique. On devient un aidant. Puis c'est quoi la clé? Bien, c'est de se prioriser, de prendre soin de soi.
Ah oui.
Parce que ça, c'est la base. Comment je peux... Là, il y a deux images que je vais vous partager. Je pense que ça va vous parler beaucoup, puis aux auditeurs aussi. Comment je pourrais remplir le verre d'autres personnes si mon pichet est vide. Comment je peux faire? Tu sais, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment prendre soin de notre propre santé mentale. Et ça, moi, je travaille beaucoup avec les proches à établir des limites, des frontières, puis à les déterminer, à les nommer clairement aussi à la personne, puis d'exprimer aussi ses besoins, parce que souvent, le proche ne va pas parler de ses propres besoins. Il va répondre aux besoins de l'autre, mais il va mettre de côté ses besoins. Donc, moi, je mets en lumière l'importance de
répondre aux besoins. On est la personne la plus importante de notre vie. Là. On ne peut pas aider personne si on n'est pas complètement sain nous-mêmes.
Mais là, ça doit être difficile de tracer ces frontières-là, mais parce vraiment... que tu te sens coupable de penser plus à toi alors que toi, tu vas bien puis que tu vois une personne que tu aimes souffrir.
Oui. Clairement, mais tu sais, je pense que c'est comme un équilibre. Tu sais, c'est comme on peut pas complètement délaisser le proche pour uniquement prendre soin de soi, mais je pense que c'est de... Puis souvent, je travaille avec ma clientèle en petite bouchée. Tu sais, on va essayer de déterminer, ben OK, tu sais, si tu peux pas partir une fin de semaine dans un chalet ou une semaine dans le sud... ce que je sais que tu aurais besoin, mais comment tu pourrais le faire dans le quotidien à coup de 10 minutes, 15 minutes? Comment on pourrait établir des petits moments pour toi pour justement t'apaiser puis prendre soin de toi? Puis moi, j'utilise beaucoup aussi l'approche de pleine conscience.
On en parle vraiment souvent, sur tes réseaux, méditation, on peut le voir.
Et tout ça, mais... souvent, je l'amène aussi avec cette clientèle-là, tu sais, pour se connecter beaucoup plus dans le moment présent, tu sais, pour pas comme anticiper le pire ou, tu sais, pour... on est souvent dans des... On peut développer comme de l'anxiété ou une capacité à anticiper le pire, tu sais, ma conjointe ira jamais mieux, tu sais, dans des pensées un petit peu plus comme dans le tout noir négatif ou tout blanc. Fait que, tu sais, là, on essaye de travailler sur, OK, mais ici, maintenant, OK, t'as pas de pouvoir sur la situation. Qu'est-ce que tu peux faire ici, maintenant, pour toi, prendre soin de ta santé mentale puis te sentir mieux, pour être encore plus disposé à prendre soin de ton proche.
De quelqu'un d'autre. Ouais. Quelqu'un qui est en arrêt de travail, est-ce qu'il peut partir en vacances comme ça dans le sud? Ou
Oui.
C'est possible. Hein?
C'est
délicat quand même. Là, mais
une zone grise là, est un peu étrange d'ailleurs. Parce que ton employeur apprend que tu es parti dans le sud et que tu es en arrêt de travail,
c'est quand même
un semi-conflit d'intérêt.
Mais est-ce que le médecin pourrait dire, garde des vacances pour toi, ça te ferait du bien? Je sais que si tu es sur le chômage, je pense que tu peux partir, mais tu dois rester disponible si on manque de travail.
C'est comment on définit qu'est-ce qu'on fait dans l'arrêt de travail aussi? Exact. Parce que prendre un arrêt de travail, c'est prendre du temps pour soi. Donc, pourquoi aller en vacances, ça serait mal vu? Mais c'est clair que c'est mal vu parce que tu es censé prendre du temps pour soi. Tu n'es pas censé aller t'amuser. C'est peut-être ça que tu as besoin aussi.
Ben, exact. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un, par exemple, qui était en arrêt de travail pour épuisement. Puis elle avait envie d'être bénévole dans une de mes soirées. J'ai dit, ben non, mais tu peux pas. Tu peux pas être bénévole dans une de mes soirées si t'es en arrêt de travail pour épuisement. Elle dit, ben oui, ça me ferait du bien. Je dis, mais c'est-tu légal, ça? Ouais. Tu sais, je me sentais mal, j'avais peur de faire quelque chose d'illégal. Donc, c'est bénévole, tu sais, je l'aurais même pas engagé, mais je me disais, il me semble que ça marche pas, là. Tu sais, sur les réseaux, si quelqu'un voit que tu es avec notre équipe...
Bien, elle est en épuisement professionnel, puis de l'autre bord, elle veut aller travailler en quelque sorte.
OK, peut-être qu'il faut juste que tu changes d'emploi. Tu sais, rendu là, parce que tu peux avoir un épuisement à ton travail, à toi, mais peut-être qu'il y a autre chose qui t'allumerait, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Rendu là. Mais c'est des questions quand même qu'il faut se poser. Il y a tellement de gens qui vont travailler à reculons, puis c'est là que ça devient dangereux, justement, de tomber en épuisement, puis de prendre cette voie-là, tu sais.
Oui.
Tu aurais des interventions à privilégier, je pense, par rapport à ça?
Oui, bien, tu sais, j'en ai nommé quand même quelques-unes à travers, mais tu sais, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de se prioriser, de prendre du temps pour soi.
La méditation, ça fait toute qu'une différence, hein?
Oh oui.
Puis c'est difficile parfois de se laisser aller. On en parlait hier, justement, là, à quel point, personnellement, moi, je suis incapable de ne pas avoir de pensée. Si j'ai pas de pensée, j'ai une chanson dans ma tête.
C'est impossible de ne pas avoir de pensée.
Oui,
c'est impossible.
Impossible de ne pas penser à rien.
Mais c'est le propre de la méditation, c'est d'apprendre à les contrôler, c'est ça?
Ben, en fait, c'est comme un entraînement. C'est comme le sport, c'est un entraînement physique. La méditation, c'est un entraînement mental. Fait que, tu sais, on entraîne notre cerveau à diminuer la quantité, le flot des pensées. Fait que c'est juste ça. Mais en fait, on ne peut pas ne pas avoir de pensée. Mmh. Fait que
c'est quoi? C'est 80 000, hein? Pas loin de 80 000 pensées par jour, je pense qu'on a. 78 000, 80 000.
Eh mon Dieu, ça doit dépendre des cerveaux, j'imagine.
C'est en moyenne.
Toi, d'après moi, t'es à 500 oui? 000.
Oui, hey, mais j'ai tellement... Oh, je m'améliore tellement.
Oui, mais c'est vrai.
Oui, vraiment. Je médite, je lis davantage. Au lieu de lire un livre par soir, j'en lis trois en même temps.
Ben oui. Hein. On commence plein de programmes
chacun
en même
temps. Chacun sa façon de relaxer.
Mais ben, en parlant de méditation, Cathy, je trouve que tu es un bon exemple. Toi, ça fait combien de temps que tu pratiques la méditation dans sa règle, dans sa forme la plus pure, en fait?
En fait, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la méditation, mais plus au niveau théorique, puis au niveau comme empirique, tu sais, je te dirais que ça fait un 2 ans. C'est 2 ans que je me forme intensivement.
Et on parle sur une base quotidienne?
Oui.
OK. Du jour zéro à aujourd'hui, là, 700 jours plus tard, c'est quoi les bienfaits que tu dénotes?
Ah, mon Dieu, il y en a tellement... au niveau de la gestion du stress, anxiété. Puis on a tout aussi le processus de réparation, d'auto-réparation. Fait que ça, c'est, imaginez-vous comme un oignon, des pleures d'oignons. Ça, c'est les couches de stress accumulées. T'sais, on en accumule d'année en année. Fait que la méditation va avoir un processus de... C'est comme un grand ménage, dans le fond, du stress. Fait que plus on pratique, plus... on va agir sur ces couches de stress-là accumulées. Donc, ça, c'est un des bienfaits. Au niveau aussi, tout ce qui est au niveau cognitif.
Oui.
Attention, concentration.
Idées plus claires.
Plus de clarté. Donc, tu sais, il y a vraiment des bienfaits à tous les niveaux. Au niveau de la prévention de la rechute, de la dépression. Donc, tu sais, il y a vraiment...
Ça amène vraiment un changement chimique dans le cerveau également, là, au niveau de la sérotonine, ouais. Ça, c'est l'hormone du bonheur, l'oxytocine, tout ça. Je pense que ça vient vraiment jouer là-dessus, puis ça a des impacts super positifs. Puis même dans l'anticipation ou encore dans la gestion des crises ou des... La façon de gérer les conflits ou les défis, finalement, ça a un impact direct, là, la méditation, vraiment. Puis il y a différentes façons de méditer, tu sais. Personnellement, moi, le yoga, je suis pas capable. Mais de pouvoir rester assis ou allongé avec une musique douce ou quelqu'un ou une méditation guidée comme t'offres, parce que ça, t'en as aussi, je pense, en ligne. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne super bien pour moi, mais le yoga, non. Pour d'autres personnes, méditation guidée, ça va les gosser. Il faut que ça fitte aussi là, avec la personne, la voix de la personne. Ça se peut que ça te gosse, tu sais. Mais pour d'autres, le yoga chaud, yoga... Il y a différentes formes de yoga, il y a différentes formes de méditation possibles. C'est sûr qu'il y en a une qui peut fitter avec vous, là.
Bien, c'est juste d'aller explorer aussi. Puis moi, mon approche, c'est... Je veux pas rendre ça comme compliqué. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a des règles de base, mais moi, je l'amène vraiment d'une façon comme... Tu y vas avec ce que tu es capable d'offrir puis ce qui rentre dans ton horaire. Fait que si c'est 5 minutes par jour, c'est correct. Si pour toi, c'est d'être dans le mouvement,
Oui, il y en a qui vont aller marcher.
Exactement. Mm-hmm. Exactement.
Mais quand tu parlais du stress et de l'image de l'oignon, est-ce que tu disais que, autrement dit, on vit une vie qui est teintée par le stress et qu'on l'accumule au fil du temps, puis faire la méditation, ça nous permet de se délester du poids de ce stress-là qu'on a accumulé toute notre vie, ou... t'es capable maintenant de diminuer le stress, voire le voir disparaître tout simplement en pratiquant la méditation?
Bien, ça agit vraiment ces deux niveaux-là. Je pense qu'on ne peut pas enrayer complètement
c'est
le
stress.
C'est
impossible, hein? T'apprends à mieux le gérer, j'imagine.
Mieux le gérer, parce qu'en fait, le stress, ça nous
sert. On en a besoin.
Ben oui, c'est ça.
C'est le cortisol, ça nous permet de rester alerte.
Je pense pas que c'est jamais bon de réprimer une émotion.
Oh
ou
non,
un sentiment ou un ressenti.
Dit, hein? Accueillez vos émotions négatives.
Ben c'est ça. C'est ce qu'on fait avec. C'est ce qu'on fait avec.
Exact.
Qui est
oui, absolument.
Oui. Oh oui. Donc, tu sais, le stress, c'est important, mais quand on a un stress qui est trop élevé ou de l'anxiété, ça peut nuire à notre fonctionnement. Donc là, c'est d'essayer de canaliser un petit peu tout ça, puis d'arriver à un niveau de stress qui est juste comme correct, tu sais, qui va nous amener à être dans l'action. Par exemple, si on a à performer pour, tu sais, comme là, on est à quelque part, on est en état un peu plus d'alerte, tu sais, on doit comme être assez vif d'esprit, là, tu sais, on se relance la balle, puis tu sais, il faut comme être là. Donc, si j'avais aucun niveau de stress, ben là, je serais comme pas toute là, là, tu sais. Fait que aujourd'hui, ça me sert. Mais est-ce que je suis dans l'anxiété qui me paralyse? Non, pas du tout. J'ai un stress qui va juste m'amener à être capable de performer puis de rester alerte.
Ouais. Mais je sais que j'ai lu, en fait, qu'il y a des stresseurs qui ne faisaient pas partie de nos vies autrefois, qui sont là aujourd'hui, et ça fait en sorte, tu sais, juste d'être notifié constamment, d'être toujours disponible, rejoignable en tout temps. Ça, c'est un stress épouvantable.
On est surstimulé.
On est surstimulé, exactement. Donc,
ah, oui, clairement. Ouais. Tu sais, quand on est entrepreneur aussi, comme
bien oui.
toi aussi en ligne, à quelque part, on doit mettre des limites parce que ça peut clairement générer beaucoup de stress,
ah, oui.
beaucoup d'anxiété. Fait qu'il faut se déconnecter parce que si on le fait pas, on est constamment en état d'alerte.
Puis ouais. ça aussi, ça peut avoir un impact sur les proches et la famille.
Ah oui, clairement. Oui, oui.
Puis les problèmes surviennent toujours quand il y a un souper de famille. Ou un rassemblement familial, ou en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu
ouais, c'est ça,
au
ouais.
cours des 10 dernières années. Tout va bien. Chaque fois que ça a planté, c'est quand j'essayais de prendre des vacances ou quand j'étais en souper de famille.
Ben, la
chaque
vie t'envoie
fois qu'il y a eu
signes.
Un problème, c'était dans des moments importants. Tu sais, c'est pas le soir ou quand je suis toute seule à la maison. Ou... Non, non,
ouais.
c'était en plein souper familial.
Quand
là...
t'es en train de lire tes 3 livres en même temps.
oui, ça fait beaucoup ça. En même temps. Là. Mais la méditation nous ramène à quelque chose qu'on jasait hier avec Laurence Cégermain. Je pense que ça pourrait être bon aussi d'apprendre à cultiver le silence au travers de la méditation si, évidemment, vous aimez ça puis vous n'êtes pas plutôt du type méditation guidée. Là. D'apprendre à être bien avec soi-même dans le silence, dans une société où on est tellement surstimulé.
Ah oui.
Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'arrive chez nous, il y a toujours du son. C'est que ce soit un podcast, de la musique, où je parle
oui.
à quelqu'un.
Mais comme
c'est bien rare que juste du silence en général.
Mais moi, s'il n'y a pas de silence, je sifflote,
Tu l'occupes,
je chantonne.
Tu
ouais,
meubles.
C'est ça.
Exact.
C'est vrai qu'on a peur du silence, peut-être.
Parce qu'on est tout seul avec nos pensées dans le silence. Donc, la méditation, j'imagine, ça nous permet à manœuvrer là-dedans.
Ah oui, tellement. Puis il y a tellement de monde qui sont mal à l'aise, qui vivent un inconfort autant dans la solitude que dans le silence.
C'est vrai.
Fait que c'est d'apprendre à... Tu sais, moi, je dirais pas d'aller faire, par exemple, une retraite comme en juin, je vais faire une retraite de silence d'une journée. Fait que, tu sais, je dirais pas de commencer par faire une journée de silence, mais tu sais...
C'est raide un peu.
Ça toi, fait raide un
tu
peu,
tu l'as
là.
Fait plus qu'une journée, hein, une retraite de silence, il me semble?
J'ai pas fait une retraite de silence,
ah.
à proprement dit, mais j'ai eu des longs moments de silence, notamment dans mes parcours thérapeutiques, là, où
ouais.
je suis allé m'asseoir le cul en thérapie. Là, j'étais des longs moments, là, de 3-4 heures, des fois, enfermé
okay,
dans
okay,
ma chambre,
okay.
à pas lire, à juste meubler le vide.
Ah, ouais.
Comme si j'étais en prison un peu. Là.
Oui.
Ouais, tiens, le confort de la prison aujourd'hui n'est pas à dénier, mais vraiment, j'essayais de juste apprendre à manœuvrer, apprendre à comprendre le schéma de mes pensées, puis c'était vraiment pas le fun au début. Sincèrement.
Mais c'est confrontant, j'imagine.
C'était très confrontant. J'ai pas trippé pour le moins du monde au début,
ah,
mais
ouais.
plus je le faisais, plus je voyais qu'il y avait un avancement, puis j'avais pas de concept de méditation en dedans de moi, mais... Je pense qu'en le faisant, on devient un peu autodidacte par la bande. Là. Mais j'ai vraiment vu des bienfaits et je les ai ressentis. Je les ressens encore aujourd'hui.
Aurais-tu des petits conseils au niveau de la méditation qu'on pourrait faire à la maison? Quelque chose de simple qu'on pourrait instaurer peut-être dans une routine ou je ne sais pas. T'aurais-tu quelque chose à nous conseiller?
Oui, bien... C'est sûr que les méditations guidées, c'est un bon départ, mais si, par exemple, on se dit, ben OK, moi, je veux comme juste quelques minutes. Moi, ce que je recommande, c'est de s'installer peut-être près d'une source de lumière. Tu sais, mettons le matin, avant de prendre notre téléphone, d'aller voir si on a des... Tu sais, y a-tu du nouveau sur Facebook, sur Instagram, tu sais. On peut-tu comme juste mettre ça de côté... aller se mettre près de la lumière.
Pourquoi pas la noirceur?
Fermer les yeux.
Mais la lumière va augmenter tes fréquences. Ça va stopper. Premièrement, si tu te réveilles le matin, si tu vas dans près d'une source de lumière, ça va stopper la mélatonine.
Okay.
Donc, ça va te permettre d'aller plus rapidement là, vers les hormones d'éveil et des hormones plus
exact.
Positives. Parce oui. que si la mélatonine, l'hiver, en fait, c'est ça qui nous rend un peu... depressed, c'est que le matin, on se lève, il fait noir, donc la mélatonine continue de se sécréter un petit peu tout au long de la matinée. Si tu ne stoppes pas ça, les gens qui travaillent à la maison, par exemple, du matin au soir, se lèvent le matin, il fait noir, travaillent toute la journée et sortent du travail, il fait noir, bien, la mélatonine, tout au long de la journée, c'est l'hormone du sommeil et c'est ce qui peut rendre très, très dépressif et c'est de là que vient souvent la dépression saisonnière.
pour ça qu'on recommande aussi la luminothérapie. Fait oui. Que ça, ça aide aussi à, comme tu dis, à...
Ça, c'est magique. Hein? Ouais. J'ai ça dans ma vie depuis plus d'une dizaine d'années, puis ça fait toute une différence. Vraiment.
Wow.
Oui, oui, définitivement. Ouais. Fait que moi, c'est ce que je recommande, c'est de s'installer près d'une source de lumière, mais juste de ne pas aller sur son téléphone en se levant. De se mettre une routine.
C'est dur, ça.
Tu sais, que même si, par exemple, tu ne veux pas méditer, OK, mais est-ce que tu peux juste fermer les yeux, respirer? Est-ce que tu peux peut-être écrire? Hein, y a des gens qui aiment beaucoup oui. écrire le matin. C'est juste de se créer une routine. Au lieu de tout de suite comme rentrer dans le monde technologique où là, on stimule notre cerveau. Fait que c'est de poser des petits gestes comme ça qui va tranquillement, tu sais, qui va nous apprendre à être dans la solitude, dans le silence. Puis tantôt, Max, qu'est-ce que tu expliquais? C'est l'espèce d'inconfort que ça t'a fait vivre au début. Souvent, on s'arrête là. Tu sais, une situation nous fait vivre un inconfort. Et là, on arrête.
Mais le changement s'opère dans ouais. l'inconfort. Mais c'est oui, normal exactement. Qu'on le vive au début.
Exactement. Fait que, mais il faut tolérer, il faut apprendre ouais. à tolérer le malaise.
Jusqu'à ce que ça devienne source de confort.
Exactement. Puis après ça, la magie opère. Ah. Tu sens comme les bienfaits. Là.
Si vous ne voulez pas, mettons, là, t'es maussade, t'es à la maison, ça ne file pas, là, pendant 2 à 3 minutes, là, mets ta toune préférée. Là,
oui!
Et... Lève-toi debout puis bouge, OK? Sautille sur toi-même là, pendant 2 à 3 minutes, OK? Ça a l'air vraiment ridicule. Tu vas te sentir ridicule, mais je te jure qu'après, ça va tellement te faire du bien. Tu vas augmenter ta pression sanguine, l'oxygène va monter à ton cerveau. Ça va te faire un bien fou. 2 à 3 minutes, là, bouger intensément, sautiller sur toi-même, au son de la musique que t'aimes, ça va vraiment te faire du bien. Ça, c'est un truc aussi qui fonctionne bien.
Tellement, puis sortir dehors... Chaque jour. Ça a ouais. l'air niaiseux, mais là, maintenant, là, j'écoutais un podcast ce matin qui parlait du télétravail.
Mm-hmm.
Puis depuis la... On le dira pas, la pandémie.
La quoi?
On veut comme oublier cette période-là, mais tu sais, il y a beaucoup de télétravail maintenant. Fait qu'on est comme toute la journée dans la maison. Des fois, on n'a même pas à sortir pour aller chercher les enfants ou quoi que ce soit. Mais sortir dehors chaque jour, tu sais, aller prendre une marche, de se mettre en mouvement, puis tu sais, d'essayer de retrouver aussi le plaisir. Tu sais, souvent, moi, je parle beaucoup d'apaisement, tu sais, de développer des stratégies d'apaisement, mais aussi de ramener du plaisir, tu sais, comme de mettre ta toune préférée, puis de danser, oui. d'écouter quelque chose de drôle.
Quelque chose
d'avoir,
qui t'allume.
Oui, tu sais, d'être dans le plaisir, parce que sinon, ben, quand on est justement dans un épisode de dépression ou quoi que ce soit, ben, c'est un des symptômes. Tu sais, on ressent moins de plaisir ou on a moins de plaisir à faire les actions qu'on aimait faire auparavant. Ouais. Fait qu'il faut aller recréer dans notre cerveau ces chemins-là. Hein. C'est comme si, au niveau des neurotransmetteurs, il y a comme un espèce de dérèglement. Donc, il faut aller, tu sais, il faut consulter aussi un médecin.
Mm-hmm. Oui.
Aller, là, on a bifurqué un peu notre sujet.
Oui, c'est
de...
parfait. Oui. On est là pour ça.
Mais revenons dans le sujet, justement. Là, quand on parle de contagion d'une personne qui a un problème de santé mentale chez ses proches, est-ce que ce serait une bonne chose pour la personne qui côtoie la personne qui a une problématique de santé mentale d'essayer de la raisonner, d'essayer de la forcer à sortir de son marasme? Par exemple, si quelqu'un est victime d'une dépression, d'essayer de l'amener faire des activités à l'extérieur, même si elle ne veut pas la personne en soi, c'est-tu bon de faire ça? Y a-t-il une limite qu'il ne faut pas franchir?
Bien, c'est important, parce que c'est un bon point que tu amènes, parce qu'il faut en même temps comme essayer de stimuler la personne.
Oui, parce que je pense
ouais.
que c'est une tendance qu'on a toutes.
On peut être persévérant, mais il faut faire attention pour ne pas s'acharner
ouais.
non
plus. Ben, c'est exactement. Ça, tu sais, quand on aime quelqu'un, ouais. on se dit « Ah oui, viens, on va aller dehors, là, bat-toi ouais. le cul un peu », mais c'est simple, mais je pense que ça peut avoir des graves conséquences.
Ben oui.
Ben, moi, je pense qu'il faut aller, faut respecter aussi les limites de la personne, puis il faut demander à la personne aussi de quoi tu as besoin. Tu sais, je pense que c'est la communication aussi, c'est comme, mettons ton exemple d'aller dehors. OK, tu sais, on pourrait aller dehors. Mais là, d'établir, tu sais, on y va combien de temps? Peut-être que de prendre une marche d'une heure, c'est pas réaliste, tu sais.
Ouais. Non.
Fait okay. que c'est de voir, écoute, on peut-tu comme juste sortir sur le balcon? Juste aller prendre
oui.
l'air un petit peu. Tu sais, d'y aller par étapes, de respecter aussi le rythme, parce que la personne a réellement une grande fatigue physique et mentale. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de ne pas brusquer, mais en même temps, il faut aussi comme stimuler la personne pour la ramener aussi dans l'action tranquillement. Fait que, tu sais, c'est comme de trouver l'espèce de...
D'équilibre entre les deux. Puis j'imagine qu'à l'inverse aussi, il ne faut pas le prendre personnel si on se fait dire non à plusieurs reprises.
Oui, clairement. Puis la personne aussi qui est en situation de détresse, un des symptômes, c'est l'isolement.
Oui.
Fait qu'il y a ça aussi, il faut briser l'isolement tranquillement, mais en même temps, on ne va pas l'amener dans un souper de famille ou dans un show de musique.
Non, ça va juste aggraver.
Exactement.
Ouais. Peux-tu nous expliquer la nuance entre l'isolement et la solitude?
Oui, clairement, je vais essayer dans mes mots de vous expliquer ça. L'isolement, c'est qu'on se coupe, vraiment de l'entourage volontairement parce qu'on est dans un état de détresse. Tu sais, quand on est dans un état psychologique qui est vraiment très négatif.
Tu fais beaucoup d'évitement aussi, non?
Oui, définitivement. Donc, c'est vraiment la notion de détresse psychologique de la personne. Tandis que le besoin de solitude, ben moi, je le vois comme de recharger notre batterie. Tu sais, moi, j'adore mes moments de solitude parce que j'ai un travail qui est très relationnel. Tu sais, je suis tout le temps en relation avec des gens. Je parle beaucoup. Tu sais, je travaille en relation d'aide. Fait que pour moi, mon besoin de solitude, j'en ai à tous les soirs. À tous les soirs, tout le monde chez nous sait que j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de me ressourcer. Puis, fait que c'est en termes de besoin de ressourcement. Fait que je ne sais pas si ça te fait du sens.
Oui, tout à fait.
Vraiment. Puis de l'épuisement social, j'ai parlé avec de plus en plus de gens, en fait, qui le vivent.
Ça existe aussi.
L'épuisement social, puis je pense que c'est un peu ça que j'ai vécu. En fait, là, depuis janvier, moi, je n'avais plus dans aucun de mes événements. Je me concentre sur mon travail de jour et tout ça. Je me suis rendu compte que j'étais épuisée. J'étais hyper malade. Mon corps me parlait et je suis persuadée que c'était ça. Je me donnais trop tout le temps. Puis, je vous le dis, là, dans les dernières semaines, plusieurs personnes me parlaient de ça. Ils sont épuisés, fatigués, mais pas nécessairement en dépression ou en... Pas d'idées noires ou des trucs négatifs. C'est vraiment juste de l'épuisement, de voir des gens, de discuter avec des gens tout le temps. On dirait qu'on a besoin, à un moment donné, c'est ça, de solitude, de recharger notre batterie. Puis après ça, bon, ta batterie sociale, hein, notre batterie sociale qui descend comme ça... Ça n'a pas négligé aussi, là.
C'est éreintant.
Bien, vraiment. Puis là, c'est la semaine de la semaine nationale de la santé mentale. Comme on disait, c'est du 6 au 12 mai. Puis on dit que c'est un appel à la gentillesse.
Oui, c'est le slogan, oui, c'est ça, c'est le thème de cette année.
Un appel à la gentillesse.
Oui, la compassion.
Ah, OK, oui. J'aime mieux ça.
Ouais. La compassion est humaine. C'est leur slogan, c'est ça, cette année.
Oui, puis moi, ce que ça fait monter, c'est l'importance. Tu sais, je vous donne l'exemple, tu sais, mettons, on est sur la rue, on croise des gens. Souvent, on est comme dans notre bulle, on fait notre petite affaire, on est très individualiste. Bien, moi, j'ai toujours en tête que peut-être la personne que je vais croiser, là, bien, peut-être que ça va faire toute la différence dans sa journée que je lui fasse un sourire ou que je lui dise bonjour, comment ça va? Ou hey, votre chien, il est donc bien beau, c'est quelle race?
Attendez, je vais ouvrir la porte.
Oui, exactement.
Ça fait tellement plaisir. Puis il y a inévitablement un sourire qui naît. Puis ça, c'est drôle. J'ai une amie présentement qui est à New York qui me disait le monde est tellement dans leur bulle ici, le monde est tellement bête. Puis on me disait ça aussi à Paris. On me disait que les Parisiens étaient bêtes. Moi, j'arrive à Paris, là, me fait plein d'amis. Mais c'est parce que je suis pas dans ma bulle. Moi, je fais des sourires à tout le monde, puis je dis bonjour à tout le monde, puis on dirait qu'ils sont surpris de ça. Mais en réalité, les gens sont comme ça parce qu'ils se disent que tout le monde est comme ça.
Oui, puis il y a l'effet de la ville aussi.
Il y a l'effet de la ville, mais je pense pas qu'ils sont nécessairement fermés à recevoir un sourire. En tout cas, je sais pas, là, mais moi, dès que je fais un sourire à quelqu'un, puis que c'est comme pas... Je veux dire, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que je croise comme ça dans la rue, un beau sourire.
Non, bonjour. C'est ça.
On dirait que la personne est comme une surprise. Hein?
Mais okay. Je pense que l'être humain, à la base, est beaucoup plus rapidement dans le jugement que dans l'accueil.
Oui,
si
c'est vrai.
Si on pouvait inverser ça, ce serait tellement raison. Plus facile pour tout le monde.
Oui. Donc, on va essayer d'être dans le thème de la Semaine nationale de la santé mentale et je vous invite à être dans la compassion et l'autocompassion. Donc, essayez donc de rendre service. Je vous mets... Oh oui, on fait ça. Je vous mets au défi...
De un autre
faire
projet.
Une BA par jour. On va ajouter ça à nos gratitudes de la journée.
Une BA, OK.
Une BA par jour, OK. On va essayer de faire une BA par jour. Bon. Et demain, on va se dire si c'était quoi notre BA.
OK.
La journée.
OK.
On va essayer ça.
Ben, j'embarque, moi. Ah. J'embarque toujours dans tes folies, tu le sais.
On essaye ça. On doit faire une bonne action.
Mais là, est-ce qu'il
jour.
Faut la provoquer ou si jamais ça donne, on le fait. Si ça donne pas, ça donne pas.
Ben, si ça donne pas,
parce qu'il y a une
ça
distinction
pas,
entre
là,
les deux.
Mais, ben, en fait, tu peux la provoquer ou tu peux.
Ben, j'irai toujours bien pas aux galeries de la capitale ouvrir les portes à tout le monde demain. Là,
non, c'est sûr. Mais tu sais,
j'aimerais
peux,
ça, mais j'ai
tu
pas
peux laisser passer quelqu'un à un stop. Tu peux. Ah. Ou quelqu'un là, qui attend pour passer dans une file là, en voiture. Ouais. Tu peux aider une personne âgée à traverser la rue. OK, ça, c'est un peu Grinch.
Oh, mais... C'est un peu Grinch, mais... Aider un aveugle à traverser la rue.
Oui!
Faut juste tu le trouves, là, c'est un peu plus compliqué.
Non, non, fait mais...
Si vous croisez un gars à barbe avec des lunettes qui oui. est sur le bord de la rue, ben laissez-vous aider,
ouais,
c'est pour
ça.
Faire sa BA.
Merci, Kat, de m'aider.
Oh là là!
Mais j'embarque!
OK, parfait, on embarque.
T'embarques-tu, toi aussi,
Kat? J'embarque.
Parfait.
Fait que tu me partageras ça, puis demain, on va en parler.
Yes!
On va parler de ta BA. Donc, ben, merci beaucoup, Cathy Savard, travailleuse sociale, enseignante de méditation et entrepreneur offrant des services aux particuliers et aux entreprises. Tu participes, on te voit un peu partout là, ces temps-ci, dans des conférences, en ligne, en présentiel, des partout, vraiment. Tu participes à plein de beaux projets. Hyper inspirant, en fait.
Ouais.
Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui.
Puis je voulais t'en parler hors d'onde. On n'a pas eu le temps de se parler bien avant qu'on enregistre, mais je suis allé voir ton nouveau site web. C'est merveilleux.
Oui,
allez voir
vraiment.
Ça, vraiment. Tu offres des séances qui sont déjà toutes enregistrées. Mm-hmm. Quel beau produit que tu offres.
Oui.
Merci.
CathySavard.com?
Oui, CathySavard.com. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'aime bien partager aussi du beau contenu.
Donc, oui, abonnez-vous. Voilà. Instagram, Facebook, Cathy Savard, travailleuse sociale. Merci, Cathy. Toujours un plaisir.
Merci.
Merci.
Chers auditeurs et auditrices, toujours un plaisir également de vous savoir à l'écoute soir après soir. Et merci, Max.
Merci à toi.
Mon frère acolyte.
Ma chère acolyte. Oh putain de bordel de merde.
J'ai hâte de savoir, ça va être quoi ta BA de demain?
Ouais, ben, gars, sky's the limit.
Ouais, sky's the limit.
J'ai hâte de savoir la tienne aussi, là, parce
oui.
que tu vas être la genre de fille à m'arriver avec. J'ai donné 1000 piastres à un sans-abri.
Mais moi, j'en donne tout le temps. Presque ouais. à chaque jour, je croise des itinérants. Ouais, ouais, dans le coin du traversier, il y en a.
OK.
Pas mal.
Dans le coin du traversier?
Ouais.
En basse ville de Lévis ou à
ouais,
Québec?
Ouais, les deux côtés. Mais il y en a un en particulier, là, avec ses canettes, là, qui traverse, puis je pense qu'il habite Lévis, là.
OK.
J'ai donné 5 piastres, autrefois, il était super content.
Ben, parfait, ça.
Ben, ouais.
Ben, oui. Quand on peut aider, il faut le faire.
Oui, mais tu sais, il faut pas le faire justement pour le montrer. Là, je vous propose qu'on en parle.
Oui.
Mais je veux dire,
allez pas me faire une story
action,
avec ça. Là.
C'est ça, exactement.
Ah, non, 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 ça,
là, moi, les gens là, qui donnent des repas aux itinérants puis qui se filment en train de donner un repas aux itinérants, ça me gosse. Là.
Mais moi aussi,
j'ai
ça me gosse.
J'ai un malaise incroyable.
Oui, c'est parce que tu essaies de retirer du positif pour toi en aidant quelqu'un qui est vraiment t'sais, dans le besoin. C'est, comme...
c'est ça. En fait, tu peux le faire
pas une
pour
bonne chose.
Inciter les gens à le faire. Mais si chaque fois, c'est dans le but de te faire féliciter de le faire, ça, je trouve pas ça correct.
Regardez comment je suis bon, j'aide les gens dans le
ouais,
besoin. Non,
c'est
non,
ça.
C'est ça. Il y a peut-être un problème là, avec
exact.
Ton identité, mon cher.
Voilà, hein, nous autres, on est allés au frigo partage, là, puis on en parle.
C'est cool, ça, le frigo partage.
Hey, mais vraiment.
Ouais, mais j'ai toujours eu peur de prendre des. En fait, j'ai jamais vraiment eu besoin de le faire jusqu'à présent, là, mais si un jour j'ai à le faire, je le ferai. Mais j'ai quand même une certaine crainte là, de.
Ben, en
de
fait,
prendre
faut que t'arrives vite,
là-dedans.
Parce qu'on a à peine le temps d'arriver que nos sacs sont vidés. Là.
Ouais.
Les gens se ruent, ils nous voient arriver.
J'ai vu beaucoup de chaînes de restaurants qui allaient mettre
oui,
des plats là-dedans,
vraiment.
Des restants. C'est
ah,
vraiment cool.
Tellement, vraiment une belle,
mais c'est sécuritaire.
Belle action.
C'est sécuritaire.
Oui, bien j'espère. T'sais, c'est sûr que la MAPAC n'est pas là-dedans. Là. Mais tu sais,
ouais, c'est un bon point.
Moi, ce que je fais, c'est j'achète des sous-marins. Mais là, depuis que je suis sur la Rive-Sud, là, je le fais moins. Là, mais c'est des sous-marins que j'achetais, que je coupais en deux ou en trois. Puis tu mets ça dans des blocs. Tu mets ça dans le frigo. Fait que les gens peuvent
ah, c'est
se
cool,
servir.
Ça.
Mais comme je te dis, on n'a pas le temps de se rendre au frigo. Les gens viennent puis nous demandent, ils pigent presque direct dans le sac. Là.
Ah ouais?
C'est triste, là. Puis c'est de plus en plus de gens. Non, c'est vraiment triste. Honnêtement. Ouais. Et ce frigo-là est situé à l'église du Parvis, mais il y en a un peu partout là, dans la ville de Québec sur Internet. Vous pouvez trouver la liste des emplacements des différents frigos partage.
Fait qu'on finit-tu en disant s'aider tout le monde, c'est aussi s'aider soi-même?
Oh, mais tellement. Mais c'est tellement gratifiant d'aider. Ça fait tellement du bien de rendre service puis d'aider les gens, là, sérieusement.
Ouais.
C'est tellement une
totalement.
Sensation. Tu sais, il n'y a rien qui... Ça n'a pas de prix.
Ah, tu vas pas pleurer.
C'était la exploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.